pour commencer à voir le point de vue de la vertu de justice. En disant, à la suite d'Aristote et de saint Thomas, que la vertu de justice regarde le droit, le jus. Ce qui est très difficile, c'est de préciser ce que c'est que ce jus. Je vous l'ai dit. Il faut essayer de découvrir ce que c'est que le droit de quelqu'un. J'allais dire, mais au droit, nous arrivons assez facilement à comprendre ce que c'est. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre le droit de l'autre. Alors, à partir de ces droits, réfléchissez objectivement ce que c'est. Quand on vous marche sur les pieds, vous avez l'impression qu'on vous a quand même écrasé. Et spirituellement et intellectuellement, c'est la même chose. Vous avez des droits, et de temps en temps, on ne fait pas attention. Les droits de passer aux endroits cloutés. Et si on vous écrase à ce moment-là, vous êtes dans votre droit. Vous êtes écrasé, vous êtes dans votre droit. Alors c'est déjà une petite satisfaction, n'est-ce pas, d'être au moins dans son droit. Et c'est vrai, dans un accident, quand on vous dit vous êtes en plein dans vos droits, c'est l'autre qui est en. Ça vous soulage beaucoup. Ça vous enlève toute la culpabilité, n'est-ce pas. Non, il y a de la casse, c'est pas drôle. C'est ennuyeux, mais au fond, ça nous enlève. Parce qu'on a respecté les droits de l'autre. Alors, il faut saisir que la personne humaine a des droits. C'est enraciné dans la personne humaine. C'est enraciné dans la personne humaine par rapport à sa fin. Et je crois que c'est par rapport à la fin de la personne humaine qu'on doit comprendre ce que c'est que le droit. Si nous n'avions pas de finalité, est-ce que nous aurions des droits? Mais je dis ça, c'est parce qu'on m'a dit que c'était difficile d'y revenir un tout petit peu, c'est pour ça que j'y reviens, parce que je crois qu'en effet c'est important d'y réfléchir. Les juristes qui sont habitués à réfléchir sur le droit ne réfléchissent pas sur savoir ce que c'est. Ils regardent les lois et puis les applications des lois, c'est tout. Et puis de voir comment ça va. Le philosophe essaie de comprendre ce que c'est. Ben, c'est lié évidemment à la dignité de la personne humaine. Et je crois que c'est lié à la dignité de la personne humaine en tant qu'elle est finalisée. Oui, c'est pas l'autonomie de la personne humaine. C'est la personne humaine finalisée. L'autonomie de la personne humaine aurait simplement un droit à vivre. J'ai un droit à vivre. Remarquez que c'est le droit le plus sacré. Le droit à vivre. Le tout petit enfant, dans le sein maternel, a un droit à vivre. Parce que c'est une personne humaine. Alors que si ce n'était pas une personne humaine, il n'aurait pas le droit à vivre. En tant que personne humaine, il a un droit à vivre. Alors vous voyez, c'est donc déjà fondamentalement du côté de la personne dans son autonomie. Mais pourquoi cette autonomie donne-t-elle un droit? C'est qu'elle doit croître et donc finaliser. Donc c'est relié à l'esprit. C'est relié à l'esprit en tant que l'esprit est finalisé. Et il me semble que toujours le droit est lié à la fin. Je crois qu'il n'y aurait pas de droit, on ne pourrait pas expliciter. Quand on parle des droits sans parler de la finalité, c'est bien évident. Ici, c'est le philosophe qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le droit. Voyez, on parlera par exemple d'un jus amicabile, le droit de l'ami. L'ami a un droit, comme ami, à l'égard de son ami. Et c'est pas le droit légal, c'est tout à fait autre chose. C'est un droit qui n'est pas défendu par la loi. C'est un droit amical. Parce que je suis ton ami, j'ai des droits particuliers sur toi. Ou plus exactement, tu dois respecter davantage mes droits. Parce que je suis ton ami. Et ça, c'est en fonction de quoi? En fonction de l'amitié et donc en fonction de la finalité. Et c'est peut-être ce droit qui est au fond le plus sacré. Parce que c'est plus finalisé. Et tout de suite directement lié à la finalité. Le droit à la contemplation. On a un droit à la contemplation. L'être humain a un droit à la contemplation. Dans la mesure où il la désire. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas de contemplation n'a aucun droit. Et dans la mesure où il a son intention, il a pris cette intention de vie, il tend vers une vie contemplative. Il tend vers l'idée contemplative parce qu'il considère que c'est là où sa personne humaine, où sa nature humaine sera parfaitement développée, parfaitement elle-même. Donc du fait même qu'il a opté pour ça, qu'il a orienté sa vie pour cela, l'orientation de l'homme vers la vie contemplative lui donne des droits particuliers. Je crois que ça vient de la finalité. Alors qu'est-ce que c'est qu'exactement, hein? Je vous ai dit, c'est très difficile à préciser. Je prends des exemples exprès pour induire ensuite, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce droit. Quand je prends un instrument et que j'utilise un instrument, j'ai des droits sur cet instrument. Le droit à sa pipe. Hein? C'est sacro-saint. C'est évident. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé cet instrument. Alors, ne touchez pas à ma pipe. Hein? Parce que justement, du fait même que je l'ai utilisé, elle n'est plus uniquement neuve. Elle a un lien, un habit. J'ai utilisé. J'ai un droit. Ça vous fait quelque chose quand on dit non, je sais plus, on s'est trompé, ça n'a pas d'importance, et puis c'est justement celui qu'on aime le mieux qui porte l'habit qu'on veut. Alors il y a un petit quelque chose. Alors la pauvreté consiste à ne plus avoir aucun droit. Ah. La pauvreté consiste à ne plus avoir aucun droit. Investir commun. Les mêmes bottines pour tout le monde, hein. Les mêmes souliers, les mêmes sandales. Le même lit, la même taille, c'est bien. Cette histoire des chartreux. Hein? Alors c'est la même longueur. Hein? C'est quand même, c'est ça la vie commune. La vie commune, il n'y a plus ce droit individuel. C'est très curieux. C'est pour ça que ça nous meurtrit. C'est pour ça que c'est quelque chose qui nous blesse un peu. Et ça nous blessera toujours. La pauvreté nous blesse, elle enlève nos droits. Alors, en enlevant nos droits, elle nous met dans la vie commune, elle nous met dans quelque chose qui est commun, et qui fait que c'est la même chose pour tout le monde. Alors, ça enlève, si vous voulez, ce qu'on aurait comme droit personnel à l'égard de tel ou tel outil. Et c'est l'outil qui est donné pour tout le monde. L'auto commune, ce n'est pas mon auto. Vous êtes arrivé avec votre auto, puis on vous dit, ah oui, vous entrez dans la vie de pauvreté, alors ce sera l'auto de tout le monde. Ah oui, et vous en servez 6 mois après, vous voyez que tout a été abîmé, c'est ce que c'est, voilà. Mais c'est toujours comme ça, parce que forcément c'est passé dans les mains différentes. Et là ça nous blesse un tout petit peu, si on est loyal avec soi-même, on devient bien obligé, quand même, on aurait pu faire un peu d'attention. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce petit chatouillement? Hein, qui nous blesse un peu intérieurement par rapport à notre affectivité, par rapport à ce que c'est que représente ce droit. En face de tout le monde dira, oh, c'est grave, moi je suis pauvre maintenant. Bon, oui, mais si vous regardez bien, rien n'échappe à Dieu. Hein. Alors on sait bien qu'il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose. C'est curieux ça. Et notre personnalité arrive à se loger quelquefois même dans des choses tout à fait secondaires. Plus on est dépouillé pour des choses importantes, plus on reste attaché à un porte-plume, à un cahier, à un lit, à tel coin. Je sais pas, on reste attaché à des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Vous voyez, le côté individuel de notre personnalité qui est lié à des relations multiples, à des outils dont on se sert. Je crois que si on ne s'est jamais servi d'un outil, il n'y a pas ça du tout. Alors il y a des droits conventionnels. On nous donne quelque chose, donc légalement on le reconnaît, mais on ne s'en est pas servi. Tant qu'on ne s'en est pas servi, ce n'est pas la même chose du tout. Alors vous voyez, il y a deux choses qui me semblent absolument nécessaires pour saisir ce que c'est que le droit, point de vue philosophique. Mais c'est juste pour vous, hein, si vous avez deux objections, vous me les direz, étant donné que c'est très difficile à saisir. C'est, je crois, la finalité et l'usage. Je crois qu'il y a les deux choses. Il y a l'usage qui me semble nécessaire pour que le droit soit vraiment lié à la personne. Quand c'est un droit purement conventionnel, au fond, oui, on m'a légué tel argent, ça m'appartient. Mais je m'en sers pas. Oui, ça m'appartient, légalement. Je n'ai pas du tout le même attachement que lorsque je suis lié par le point de vue de l'usage. Et cet usage, non seulement il est personnel, mais il m'oriente vers ma finalité. Et dans la mesure où cet usage me permet d'atteindre ma finalité, ou est tout proche de ma finalité, le droit apparaît encore plus lié. Et il y a du plus et du moins. C'est vrai, il y a du plus et du moins. Ça vous prend plus ou moins profondément. Un vieil habit, on s'est servi depuis longtemps, hein. La vieille montre de première communion, vous savez, c'est... Et puis on l'a perdue, c'est effrayant. Hein. Ça nous appartenait, on essayait par tous les moyens de retrouver ça, parce que ça nous... Tandis qu'au contraire, quelque chose qui est peut-être beaucoup plus de valeur, mais vous n'en êtes pas servi. Alors, il y a tout un attachement, il y a tout un côté affectif qui entoure le droit. C'est pour ça que je dis l'usage et la finalité. Et il me semble que c'est le lien entre les deux qui fait la question du droit. Un droit objectif, hein. C'est quelque chose d'objectif, le droit. Donc, c'est au fond un rayonnement de ma personnalité. Et est-ce que le droit n'est pas une sorte de rayonnement de ma personnalité? Quelque chose qui touche à la gloire, si vous voulez. Une petite gloire, hein. Mais quand même, c'est quand même le rayonnement de ma personnalité. Ma personnalité peut se manifester à travers les droits que j'ai. Donc, c'est lié, l'usage, c'est la relation, la finalité me donne la signification profonde de ma personne. Alors, il me semble qu'il y a ces deux éléments qui constamment vont intervenir pour essayer de comprendre ce que c'est que le droit. Et alors, la justice consiste à respecter le droit de l'autre. Je devine les droits de l'autre et je les respecte. Et j'ai un respect à l'égard de ce droit, même si c'est pas grand-chose, ça fait rien, je respecte sa personne. Et j'ai ce respect qui doit aller le plus loin possible. Et la vertu de justice est nécessaire parce que je ne peux pas directement saisir le droit de la personne humaine. J'ai pas besoin d'habitus, de vertu pour aimer une personne humaine. Je l'aime naturellement. C'est en ce sens-là que l'amitié a quelque chose de naturel. Tandis que la justice, elle a un fondement naturel, mais il y a la détermination. Et c'est pour ça qu'il faut la déterminer davantage par le prix de la justice. Et la justice vient préciser dans l'activité volontaire le respect que j'ai le droit de l'autre. Alors qu'il n'y a pas de nouvelle vertu pour choisir un ami. Je ne crois pas. C'est pas très précis chez Aristote, je sais très bien. Parce qu'il y a des textes d'Aristote qui pourraient dire qu'il y a une certaine vertu, mais je ne crois pas. Je crois que la chose la plus nette chez Aristote, c'est que l'amitié est au-delà de la vertu, et que l'amitié n'est pas une vertu. Elle présuppose la vertu, mais elle n'est pas une vertu. Parce que la personne humaine est par elle-même bonne. Tandis que la personne humaine, je ne vois pas suffisamment immédiatement ses droits. Et donc, je dois faire attention. Je dois les respecter, et souvent il y a comme une espèce de raisonnement qui me fait découvrir ses droits. Et c'est pour ça qu'il y aura une vertu. Il y a une vertu de justice, il n'y a pas de vertu d'amitié. Alors ça, il faut réfléchir. Pourquoi il y a une vertu de justice quand il n'y a pas de vertu d'amitié? C'est parce que la volonté est déterminée suffisamment pour l'amour et l'amitié, et la volonté n'est pas assez déterminée pour la justice. Parce que le jus de l'autre, d'abord, c'est pas toujours aimable. Vous voyez bien, c'est vrai, le droit de l'autre. Le droit de l'autre peut me gêner un tout petit peu. Ce droit de propriété de l'autre, quand je suis juste à côté, moi, et que si son droit de propriété était moins affirmé ou moins net, je pourrais progressivement empiéter, n'est-ce pas? Alors, pour avancer, des clôtures qui sont mobiles et qui bougent la nuit, n'est-ce pas? Pour quelqu'un, il n'y a personne. Alors, bon, c'est pas très déterminé. Et beaucoup de choses dans le droit ne sont pas déterminées. C'est dans ce sens-là qu'on dira qu'il faudra un droit conventionnel. ou un droit légal, parce que ce n'est pas entièrement déterminé. Et même le droit de propriété pour saint Thomas n'est pas purement naturel. Le droit de propriété implique quelque chose de conventionnel. Et c'est important. Au fond, comme droit purement naturel, il y en a très peu. Il y a le droit à la nourriture, il y a la boisson, ça va de soi. Le droit à la nourriture, il y a la boisson. Mais à la boisson, pour ne pas mourir, on ne va pas dire « j'ai le droit à avoir du vin ». Non, non, non. J'ai le droit à un gâteau de chocolat. Non, non. J'ai le droit à la nourriture pour ne pas mourir de faim. J'ai le droit à la boisson pour ne pas mourir de soif. Mais pas plus. J'ai le droit à pouvoir choisir mes amis. Droit naturel. J'ai le droit à me marier. Droit naturel. Ça, c'est un droit qui est inscrit profondément. J'ai le droit à mourir de ma belle mort. Mais... lorsque dans un hôpital on fait mourir d'une mauvaise mort, eh bien ça va pas. C'est-à-dire qu'on va hâter ma mort parce qu'on considère qu'il y a une place qu'il faut récupérer, alors on fait vite partir. Enfin, ça on n'a pas le droit. Là on laisse mon droit. J'ai le droit à mourir de ma belle mort. Je n'ai pas le droit de précipiter ma mort. Je n'ai pas le droit à mourir, à me suicider. J'ai le droit, d'une certaine manière, de ne pas trop me soigner de façon artificielle. Oui. Alors là, c'est toute la prudence. Hein. Jusqu'où on a ça? Jusqu'où on a le droit de faire la grève de la faim? Très difficile de savoir ça. Jusqu'où on a le droit de faire la grève de la faim? Ce Vietnamien qui faisait la grève de la faim au moment des grandes guerres de... que j'avais comme étudiant, c'est pour ça que le cas s'est posé avec beaucoup d'acuité. Il faisait la grève de la faim à Genève, en face du Palais des Nations. Scandale. Les 15 premiers avaient dressé la petite tente là. Alors pendant 15 jours, on le laissait tranquille, mais au bout de 15 jours, ça commençait à devenir gênant. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord envoyé la police. Elle a dit que j'ai le droit. On a envoyé l'aumônier, comme il n'était pas catholique. Et à l'aumônier, il a dit, est-ce que vous pouvez pas me donner le baptême? C'est lui qui m'a raconté ça. Est-ce que vous pouvez me donner le baptême? On lui a dit, ah non, est-ce que vous êtes en train de vous suicider? Il dit, non, c'est pas un suicide. Je regrette, c'est pas un suicide. J'ai fait ça pour rendre témoignage. Devant toutes les injustices qui se font actuellement, c'est ma seule manière de rendre témoignage. Je ne me suicide pas, je prie. Et l'aumônier ne savait plus très bien quoi faire. Et l'aumônier ne lui a pas donné le baptême. Et alors, troisième épisode, ben, c'était les psychiatres, on a envoyé les gens. Il y a une graduation, oui. Les gendarmes, l'aumônier, les psychiatres. Suivant le respect par rapport au droit. À la vie, vous voyez, alors il y a toute une gamme. Alors le psychiatre, évidemment, le psychiatre n'avait qu'une seule chose, c'est de, c'est de le prendre et de le conduire à l'hôpital psychiatrique. Alors on l'a conduit à l'hôpital psychiatrique parce que c'était quand même un scandale de voir cet homme qui était en train de mourir. Alors on lui a dit, on accepte que vous continuez votre jeûne à une condition, c'est que vous preniez un tout petit peu de jus de fruits tous les jours. Parce que comme ça, on savait très bien que la mort n'arriverait pas tout de suite. Je prendrais un peu de jus de fruits tous les jours. Alors il a accepté pour bien montrer que ce n'était pas la mort qu'il cherchait, c'était de manifester qu'il n'était pas d'accord devant cette guerre qui continuait et qu'il voulait prier. Il a été bien entouré, très très bien entouré dans son hôpital psychiatrique et en les années uniquement. Alors il m'a simplement dit, parce qu'il y avait 3 semaines que je n'avais pas mangé, quand j'ai pris ce jus de fruits, je l'ai trouvé le meilleur au monde que j'ai jamais goûté. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il m'a dit, j'espère que vous me comprenez et que vous m'auriez baptisé. Hein? Parce que la seule chose qu'il avait prise, c'était la Bible. Après, c'est très difficile, ces questions-là. C'est des questions disputées, ça. A-t-on le droit de faire la grève de la faim? A-t-on le droit, nous? A-t-on le droit de faire la grève de la faim? Cherchez, cherchez, c'est pas si dans votre sens, c'est pas si facile que ça, à bien comprendre. Si on a des motifs qui sont des motifs, vas-y, pour rendre témoignage de quelque chose que personne ne respecte, alors a-t-on le droit de faire la grève de la faim? Ah, je dis pas que vous l'avez, hein, concluez pas ça trop vite, hein. Concluez pas ça trop vite, j'ai le droit de ce qu'on l'a dit au cours. Mais non, je pose la question. Je pose la question pour vous montrer des cas limites. Pour voir que c'est pas si facile que ça de voir jusqu'où va le droit de l'homme. On n'a sûrement pas le droit de se suicider. On n'a sûrement pas le droit de prendre des médicaments qui fait qu'on ne se réveille plus. Mais a-t-on le droit de faire la grève de la faim? Ce qu'on conduit petit à petit à la mort. Sûrement qu'on a le droit de faire un jeûne très sévère et donc de prendre uniquement du jus de fruits à 5 heures de l'après-midi. On a le droit de faire ça. Sûrement qu'on a le droit de faire ça. C'est sûr pour manifester. Alors on s'affaiblit. Il faut voir si on a le droit par rapport à son devoir. Un devoir complexe. Hein. Si vous êtes une mère de famille, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben, les enfants mourront à côté. Si vous êtes un père de famille, vous n'avez pas le droit. Vous avez des responsabilités. Et vos responsabilités vous empêchent de faire ça. Et donc vos responsabilités vous en... Vous voyez, là vous touchez bien ce que c'est qu'une personne humaine engagée. Et je ne comprends les droits que dans une personne humaine engagée. Engagée dans sa finalité. Et les droits sont différents suivant la finalité que vous avez. Le père Kolb, qui veut passer en face et mourir en face d'un père de famille qui serait mort à sa place. Personne ne s'est posé la question, a-t-il le droit de le faire? On dit, c'est héroïque. Ils sont un père de famille, et parce qu'il est célibataire, il juge qu'il doit le faire. Parce que le père de famille a des responsabilités plus grandes. Et la prudence et les droits, qu'il relativise son propre droit à la vie, avec tout ce qu'il avait comme responsabilité par rapport à un père de famille. Et donc là, on voit très bien que y a quelque chose qui... Je vous demanderai, donc gardez ça pour vous, et vous noterez vos questions. Parce que si je commence à mettre dans cette complexité, tout le monde va lever la main. Alors, mettez vos questions par écrit. J'aime mieux devant des questions aussi complexes. Et s'il le faut, on fera un cours de questions disputées sur ces questions. Alors vous pouvez poser toutes les questions par rapport, vous les posez dans le silence, sur un petit bout de papier, n'est-ce pas? Et puis je pourrais donner ça au père Mariel, hein, n'est-ce pas? Parce qu'alors on pourrait essayer de voir à ce moment-là. Je crois que c'est bon de saisir certaines choses, pour saisir ce que c'est que le droit. Moi c'est ça qui m'intéresse, vous voyez? Alors je prends exprès des choses limites, des cas limites, parce que les cas limites ont toujours l'avantage de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce droit à la vie. Laisser les vivre, hein, le droit à la vie. Pour un être, une personne humaine, il a un droit à la vie, un droit sacré à la vie. Je me souviens de la colère du professeur Marois quand il était revenu de Genève et qu'il avait dit au Conseil œcuménique, tout vivant est sacré. Et à ce moment-là, un pasteur lui avait dit, ah non, je n'ai pas le droit de dire ça. Tout vivant n'est pas sacré. Tout vivant n'a pas le droit à la vie. Seul l'homme a le droit à la vie. Seul l'homme est un vivant sacré. Il a été scandalisé. Et quand il m'a dit ça, je dis, mais je suis tout à fait d'accord avec ce pasteur. Alors, le scandale a augmenté encore un peu plus. N'est-ce pas? Et j'ai essayé, je vais comprendre que la vache n'était pas sacrée, que les animaux comme tels n'étaient pas sacrés quant à leur vie. On n'a pas le droit de massacrer un animal inutilement. On n'a pas le droit de tuer inutilement, c'est bien évident. Vous avez quand même le droit d'écraser une araignée le soir avant de vous endormir. Je crois que vous avez le droit de le faire. Pourquoi? Pour veiller sur votre sommeil. Vous avez le droit d'écraser un petit moustique qui risque de vous réveiller très tôt. Vous avez le droit de le faire. Pendant la journée, vous pouvez chasser aimablement. Alors, c'est autre chose, peut-être. Mais pendant la journée, pendant la nuit, vous risquez d'être mordu par... Alors, vous avez le dominium qui vous a été donné au point de départ de la Bible, d'avoir un pouvoir sur les insectes. Alors, vous pouvez lui demander de se taire. Puis, comme il ne vous écoutera pas à cause du péché originel, vous avez le droit de tuer à ce moment-là et de l'écraser. Mais vous n'avez pas le droit. Votre voisin qui ronfle, et vous passez le nez de façon telle qui meurt. Vous n'avez pas le droit de faire. Je mourrai, comme ça je dormirai plus tranquillement. Pas le droit. Pourquoi ? Parce que d'un côté il y a une vie sacrée, de l'autre côté il n'y a pas de vie sacrée. D'un côté il a un droit à la vie, de l'autre côté il n'a pas un droit à la vie. La personne humaine a un droit à la vie. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est pas la vie biologique. La vie biologique n'est pas sacrée. C'est la vie biologique liée à l'esprit. C'est la vie biologique liée à l'esprit qui donne un droit à la vie. Personne humaine a un droit à la vie. C'est pour ça que la mort est une peine. Parce que la personne humaine, en tant qu'esprit, ne devrait pas mourir. En tant qu'esprit, en tant que personne, elle a quelque chose en elle qui... Et que la mort est une peine. C'est une peine divine, c'est une peine voulue par Dieu. C'est une peine voulue par Dieu pour faire mieux comprendre la culpabilité de l'orgueil. Donc, saisissez, hein, faites-vous à vous-même, sur tous ceux qui ont fait du droit en faculté, et qui s'intéressent spécialement à la question du droit, pour essayer de saisir qu'est-ce que c'est que ce jus, ce droit. C'est-à-dire qu'est-ce que ça représente, objectivement. Sur quoi ça repose? Vous voyez, je ne dis pas que ça repose, je dis que ça repose sur l'esprit. Donc c'est le lien, c'est la personne humaine. Et je crois que c'est vraiment la personne humaine qui, à partir de laquelle on doit comprendre ses droits. La personne humaine qui use de certains moyens et qui est finalisée. Bon, une fois qu'on a compris ça, la justice est là pour nous permettre de comprendre ce que c'est que le droit. Et je vois tout de suite la diversité des droits, ce que nous avions commencé la dernière fois, et nous distinguons rien d'une façon générale. Mais je dis là tout de suite la distinction. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment cette distinction s'est faite philosophiquement. Parce que là, je répète, c'est très classique. J'ai le droit de le faire quand c'est très classique. Mais ce serait intéressant de voir comment ça s'est fait progressivement. La justice commutative reste le troc. C'est deux réalités qui ont la même valeur, égale. Et c'est dans ce sens-là qu'on dira que la justice commutative regarde l'égal, l'égalité. L'égalité fait partie justement de ce fait de la justice commutative. Vous, telle réalité est jugée ayant tel prix, telle valeur, alors telle autre réalité est jugée ayant la même valeur. Et vous changez le tronc. La justice commutative a commencé comme ça. Et on va très bien chez les gosses. Là, une poupée, l'autre autre chose, je te donne ça, qu'est-ce que tu vas me donner? Et alors ils font déjà un petit marchand, ils font un petit marchandise entre les deux. Puis tant qu'ils ne sont pas arrivés à dire oui, ça vaut ça, ben ils ne seront pas contents. Tandis qu'on trouvera, même si c'est purement, ce n'est pas tout à fait exact, objectivement, ça n'a pas d'importance, on est d'accord. Et alors on s'échange. On s'échange la justice commutative. Alors à partir de RES, il y aura l'argent qui remplacera RES, puisque vous ne serez plus commande. Et alors il y a la monnaie. La monnaie change, remplace le troc pour que, de fait, la justice commutative puisse s'étendre. La justice commutative va pouvoir s'étendre aussi dans des contrats. Il peut y avoir des contrats. Alors là, ce sera déjà beaucoup délicat. Hein. Ils n'ont pas tous les contrats. Mais il peut y avoir un contrat uniquement au niveau de la justice commutative. On est d'accord que telle chose qui vaut telle autre va être remplacée par telle autre. On est d'accord de cette manière-là. Et on est à soi-même. Et si on n'est pas d'accord, on va en appeler un troisième larron qui sera objectivement qui devra trancher. Un juge ou un ami. Ça dépend comment ça se fait. Vous voyez, deux gosses qui se disputent parce que le grand frère a pris à son petit frère cette chose-là, il lui a bien donné quelque chose d'autre, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est la maman, c'est le père qui va juger. Ça me rappellera, c'est très curieux, ce sens inné de la justice. Parmi les hommes chez les gosses, ils n'ont pas encore la vertu de justice, mais ils ont ce sens que quelque chose leur appartient. On me l'a donné. On me l'a donné. Alors évidemment, ils n'ont pas gagné, mais on me l'a donné. Et ça m'appartient. Et c'est beaucoup plus beau que ce qu'il m'a donné. Et alors on pleure parce qu'il l'a pris. Puis alors on m'a demandé la justice, rétablir l'égalité. Et c'est vrai, c'est à la base, hein, la base de toute justice, c'est comme ça. Il y a toujours ce triangle. Il y a un garant. Il y a quelqu'un qui est là, il y a un tribunal qui est là pour garantir exactement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une espèce d'appétit trop grand pour prendre l'autre. Mais au fond, la justice, comme il a dit, reste. Parce que c'est tout à fait particulier. À côté de la justice commutative, il y a la justice distributive. Celle-là met beaucoup plus longtemps à naître. Chez les gosses, la justice commutative, ça se voit tout de suite. C'est beaucoup plus difficile, la justice distributive. La justice distributive pourra venir justement de celui qui servira le juge, qui lui est plus grand et peut servir. Alors, c'est pas étonnant que toi tu as eu ça. Et puis ton petit frère a eu autre chose, quelque chose un peu plus, d'un peu moins beau, ou d'un peu plus beau. Enfin, c'est pas étonnant, il est plus âgé que toi. Et puis, tu vois, quelque chose d'un peu moins beau, ou d'un peu plus beau. Enfin, c'est pas étonnant, il est plus âgé que toi, et puis tu vois bien la question de la réalité, qui est uniquement une question d'âge. On doit respecter les vieillards. Hein? Ils ont un droit aux cheveux blancs. Enfin, ils ont respecté les vieillards. Respecter les vieillards, c'est justement pas les bousculer. Respecter les vieillards, c'est respecter qu'ils sont dans un rythme particulier. Alors on les respecte. Mais un respect du vieillard, le respect du vieillard, c'est la personne âgée, la personne qui a longuement vécu, la personne qu'on respecte parce qu'elle ne peut pas se défendre comme les autres. Alors il y a un respect du vieillard. Est-ce que ça, c'est la justice commutative ou la justice distributive? Ça regarde la personne. Dès que ça regarde la dignité de la personne, c'est qualitatif. Tandis que la justice commutative est purement quantitative. C'est pour ça que c'est l'égalité. Dès que ça regarde la dignité de la personne, alors tout de suite. Dès que ça regarde la dignité, la justice distributive intervient. Or, la dignité de la personne se prend à des niveaux très très différents. Il y a une question d'âge, il y a une question de qualité. Quelqu'un qui a étudié beaucoup, eh bien normalement ce qu'il fait est qualitativement meilleur que quelqu'un qui a étudié moins. Je dis normalement, pas toujours, mais normalement. Et donc ce qu'il fait parce qu'il a étudié, ben, ça a plus de valeur. Justice distributive. Le cours d'un jeune professeur ou d'un vieux professeur, ben, il y a la justice qui joue. Alors là, le jeune professeur a l'avantage qu'il est plus vivant, le vieux professeur a l'avantage qu'il a plus de bouteilles. Hein? Alors c'est donc une qualité différente. Deux qualités qui jouent différemment. Et qui fait que c'est pas égalité. On ne les met pas égalité. C'est une question de dignité. La justice distributive, c'est la question de la dignité et la qualité de la personne. Fait que celui qui est responsable du droit commun, celui qui est responsable du bien commun, va le distribuer diversement selon chacun. Selon les qualités de chacun. Le professeur qui s'occupe des études, le directeur des études, doit faire jouer constamment la question de la justice distributive. Pour l'assistance au coût, par exemple. Alors, c'est une justice distributive. Combien d'années de philosophie, combien d'années de théologie? Justice distributive. C'est pas de la commutative. Vous allez dire que c'est pas de la justice. Oui, c'est de la justice, parce que c'est la question de la formation de la personne. Dans l'éducation, la justice traditive joue tout le temps. Ne pas faire intervenir la justice traditive dans les questions d'éducation, ce serait très grave. Parce que là, ça va regarder tout le monde de la même façon. On n'aura pas le droit. Regarder tout le monde de la même façon, quand on ne peut pas faire autrement en raison de la quantité, c'est désastreux au point de vue de l'éducation. La justice divine intervient dès qu'il y a un ordre, une hiérarchie, qui fait la dignité de chacun et les qualités de chacun. Et on respecte tout cela, de sorte que ce n'est plus l'égalité, c'est une proportion. C'est la proportion qui intervient dans la justice divine. On ne donne pas la même chose à n'importe qui. Il y a une proportion. Et une analogie. Il y a une analogie qui joue. Tandis qu'ici, il n'y a aucune analogie. Dans la justice distributive, aucune. Dans la justice commutative, aucune analogie. C'est l'ordre quantitatif. Toujours la même chose. Hein? La quantité, c'est la qualité. Tandis qu'ici, c'est la qualité, donc l'analogie joue. Et alors, il y a des appréciations. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Parce que chacun l'apprécie différemment. On apprécie beaucoup le domaine dans lequel on est compétent, on est capable d'apprécier. Le domaine dans lequel on est incompétent, on est incapable d'apprécier. Et alors à ce moment-là, on peut faire de très grandes erreurs de justice distributive. Et les erreurs dans la justice distributive sont beaucoup plus graves que les erreurs de la justice commutative. Parce que ça touche à la dignité de la personne. Oui. Quand, en raison même d'une certaine, je dirais, certaine cote d'amour, vous voyez bien ce que c'est que la cote d'amour, hein? J'aime beaucoup mon petit copain, alors je vais le faire passer avant. Genre, en raison de la cote d'amour, je vais refuser au service militaire toute une catégorie de gens. En raison de la cote d'amour, tu vois? Alors je refuse, c'est une justice distributive ça. Ça regarde le bien commun. Alors c'est une justice distributive qui est en cause. Et alors on la regarde selon les capacités qu'on a. Dans les jurys, ça joue constamment la cote d'amour. Et alors quand la cote d'amour va vraiment contre la justice distributive, le petit copain du parti qu'on fait passer avant, hein, le petit copain du parti, c'est la cote d'amour. Alors parce qu'il a la carte, on va le faire passer avant. Parce qu'il a voté de telle façon, on va le faire voter avant. Donc ça va contre la justice distributive, et à ce moment-là, on détraque toute la société. Toute la communauté est détraquée à cause des fautes de la justice distributive. Et ça, je crois que c'est comme ça que ça se fait. C'est pas la justice commutative. La justice commutative, il y a des voleurs, il y aura toujours des voleurs. Alors, gendarmes. C'est pas quand il y a des voleurs. En plus, les voleurs, c'est des fautes de justice commutative. Tandis que les fautes contre la justice distributive, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça désaxe complètement la société. Ça fait qu'au bout d'un certain temps, on a ceux qui ont l'autorité sans aucune compétence. Et alors, ayant une autorité sans aucune compétence, ils appellent la révolution. Parce que c'est détruit. Et ça, c'est des fautes contre la justice distributive. Donc, les fautes contre la justice commutative, c'est le vol. Voler, on vole. J'ai essayé de rattraper un tout petit peu, vous voyez. Je sais très bien que ce que je vends a telle valeur, mais comme je vends à quelqu'un qui est absolument incompétent de savoir, je mousse un peu et puis je dis, ça fait c'est un vol. En conscience, c'est un vol, je sais très bien. J'ai roulé quelqu'un. Bon, c'est un vol. C'est pas une faute contre la justice distributive. Ben, c'est moins grave. Ça peut rester grave, ça dépend à qui vous le faites. Hein. Mais c'est moins grave que la justice distributive qui est beaucoup plus grave. Bon, vous voyez, la justice distributive a quelque chose. Et on peut dire que le use de la justice distributive est beaucoup moins. Beaucoup plus difficile à saisir parce qu'il regarde la dignité de la personne, donc il est plus subjectif. Et alors, troisième type de justice, la justice légale. La justice légale, c'est celle qui vient de la loi, évidemment, ça vient de la loi. Donc elle n'est jamais totalement naturelle. Elle applique des lois. Elle applique des conventions. Donc, la justice légale ne regarde plus directement l'éthique personnelle. Elle regarde l'éthique politique. C'est dans l'intérieur de la communauté que va se poser le problème de la justice légale. Celui qui va contre les lois va contre la justice légale. Et une faute contre la justice légale est plus grave qu'une justice communautaire. Forcément. Parce qu'elle regarde tout. Je suis là dépendant, la loi regarde toujours le bien commun. Elle doit être en fonction pour le bien commun. Tandis que la justice commutative ne regarde que le bien particulier. Alors, on voit bien là la différence entre le point de vue de la justice légale qui regarde le tout et la justice commutative qui regarde uniquement l'individu. Or, comme le bien commun est quelque chose de plus précieux que le bien particulier, on comprend comment la justice légale a quelque chose de plus divin que la justice commutative. Et vous voyez que la justice légale et la justice tributive, ordinairement, ont des liens plus fort encore qu'entre la justice commutative et la justice légale. Parce que c'est par rapport au tout qu'on voit le mieux la dignité et la capacité des fonctions. Sauf qu'il y a comme une réciprocité entre le point de vue de la justice légale. L'individu, l'individu vers le tout. Et dans la justice rédutive, le tout vers l'individu. C'est un mouvement inverse. On pourrait dire que la justice légale monte et la justice rédutive descend. Le double mouvement inversé. Parce que la justice légale, c'est... je regarde le bien du tout quand je paie mes impôts. Quand je paie mes impôts, c'est la justice légale. Quand vous conduisez une voiture et que vous respectez la limite de vitesse, justice légale. Quand vous mettez la ceinture, justice légale. Tout ce qui regarde directement les lois. Là, vous appliquez, vous faites un acte vertueux, justice légale. Vous n'avez pas l'impression de le faire, hein, quand vous mettez la ceinture. Un acte vertueux de justice légale, un acte de justice que vous faites. Et si vous ne le faisiez pas délibérément, on peut l'oublier, d'accord ? Oublier de payer ses impôts, par exemple. Ça fait partie de ces oublis qui peuvent arriver. Alors, on oublie. Alors, si on oublie, il n'y a pas de faute. On vous rappellera alors, c'est sûr. Mais il n'y a pas de faute au sens strict parce qu'on l'a oublié. Mais si on le faisait consciemment, faute contre la justice. On peut s'établir à soi-même quand on s'aperçoit qu'il y a trop d'illégalité, s'établir à soi-même et rétablir à soi-même sa propre justice. En faisant attention, et en gros, on peut rétablir, parce qu'il y a toujours, en faisant attention, je vous ai dit au point de départ, la prudence commande la justice. Il n'y a pas un acte de justice sans la prudence. Pas un seul acte de justice sans la prudence. Et ce qui explique comment, dans certains cas, on est en face de justice légale, qui se disent légales et qui ne sont pas profondément illégales. J'ai le droit, dans la mesure où je le peux, étant donné la possibilité que j'ai, de rétablir un certain équilibre. Mais quand il y a des lois illégales, elles ne m'obligent plus. Les lois m'obligent en fonction qu'elles sont pour le bien commun. Les lois qui n'est plus pour le bien commun, mais ne m'obligent pas. Et même si je veillais à une loi illégale, je fais un mauvais acte. Puisque obéir à une loi illégale, c'est n'y coopérer. C'est donc accepter. Ça arrive tous les cas de conscience que ça peut représenter. Quand je suis en face d'une loi illégale, alors est-ce que je dois dire cette loi est illégale, mais je fais comme tout le monde ? Eh bien, il y a votre prudence, hein, je fais comme tout le monde. C'est un principe tout à fait merveilleux, hein, de la prudence. La prudence, elle n'a pas le droit de faire comme tout le monde. Je remonte le fleuve. Tout le monde sait qu'il descend le fleuve. Tout le monde s'est dit, ah oui, oh, ça a été dit, non, je dois être fait. Parce que ça a été dit. Alors, c'est une justice illégale qui n'a plus d'autorité parce qu'elle est illégale. De devant une justice illégale, je dois moi-même, hein, c'est très difficile, ça, je dois moi-même établir la légalité. Alors, moi, je vais vous demander conseil. C'est tellement complexe. C'est pas facile du tout. Hein. C'est très difficile de voir exactement à quel moment commence l'illégalité d'une loi. Il y a des lois que c'est facile à comprendre. Hein. Elles sont viciées des points de départ. Radicalement viciées. Donc, je n'ai pas le droit à ce moment-là de coopérer. Et si j'obéis à la loi, si j'obéis à la loi, je coopère. Et donc, en conscience, je n'ai pas le droit. Mais en même temps que je suis en face de cela, il faut que je fasse le plus d'attention possible, parce que si ça me retombe sur la tête, c'est la correction fraternelle. On la fait quand elle est efficace. La correction fraternelle qui n'est pas efficace, on ne la fait pas. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça ici, par rapport à l'illégalité. Je peux le faire si je sais que ça va être une certaine efficacité, si je sais que ça me retombera sur la tête et que c'est quelque chose qui sera pire, alors à ce moment-là, j'ai le moindre mal en politique. Parce que je suis au niveau politique. La justice légale fait partie de la politique. Tandis qu'on voit la justice commutative ne fait pas partie de la politique. La justice distributive fait partie de la politique. Alors vous voyez cette chose très intéressante à noter, parce que ça je crois que c'est quand même très important à noter, nous l'avions déjà vu, sous un autre aspect, sous un autre problème, les rapports entre la justice personnelle et la justice politique. Quand il s'agit de la justice, l'éthique personnelle ne va pas jusqu'au bout. L'éthique personnelle ne va pas jusqu'au bout. Je ne peux pas uniquement rester dans la justice commutative. La justice commutative, qui est quelque chose de personnel et individuel, va se lier à une justice subjective, qui elle-même se lie à une justice légale. Et les trois aspects de justice, dans l'ordre d'exercice, sont souvent très très liés. Alors, en plus, aujourd'hui, si on est chrétien, il y aura la justice sociale qui va s'ajouter. J'en dirai un petit mot la prochaine. C'est intéressant, c'est important. Il faut moins y réfléchir maintenant. Alors, la justice sociale, évidemment, elle est dans l'ordre politique, c'est sûr. Je pense.